Bonjour, vous le savez maintenant, puisque ça fait plusieurs mois que c'est le cas, nous avons choisi cette année d'étudier les psaumes, et donc j'ai choisi un psaume, et il s'agit en l'occurrence du premier psaume du cinquième livre, puisque vous le savez sans doute, le livre des psaumes, c'est en réalité plusieurs livres, cinq en l'occurrence, et donc le premier psaume, du cinquième livre, c'est le psaume 105, qui est un peu long, mais ça me paraît pas inutile de le lire quand même dans son intégralité. Célébrez le Seigneur car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. Qu'il le redise ce que le Seigneur a défendu, ce qu'il a défendu contre la main de l'adversaire, qu'il a rassemblé de tous les pays, du levant et du couchant, du nord et de la mer. Certains s'égaraient dans les solitudes, par un chemin désert sans trouver de ville habitée, affamés, assoiffés, la vie les abandonnait. Ils crièrent vers le Seigneur dans leur détresse et il les a délivrés de leurs angoisses. Il leur a fait prendre un chemin direct pour aller vers une ville habitée. Qu'ils célèbrent le Seigneur pour sa fidélité et pour ses miracles en faveur des humains, car il a désaltéré le gosier à vide et il a rempli le ventre affamé. Certains habitaient dans les ténèbres et dans l'ombre mortelle, prisonniers de la misère et des fers, car ils s'étaient révoltés contre les ordres de Dieu. Ils avaient nargué le dessein du Très-Haut. Ils dompta leur cœur par la souffrance, ils flanchèrent et nul ne les aidait. Ils crièrent vers le Seigneur dans leur détresse et il les a sauvés de leurs angoisses. Il les a tirés des ténèbres et de l'ombre mortelle, il a rompu leurs liens. Qu'il célèbre le Seigneur pour sa fidélité et pour ses miracles en faveur des humains, car il a brisé les portes de bronze et il a fait sauter les verrous de fer. Certains, abrutis par leur dérèglement, avilis par leur péché, étaient dégoûtés de toute nourriture et touchés aux portes de la mort. Ils crièrent vers le Seigneur dans leur détresse et il les a sauvés de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole pour les guérir et les soustraire à la fosse. Qu'ils célèbrent le Seigneur pour sa fidélité et pour ses miracles en faveur des humains, qu'ils offrent des sacrifices de louanges et proclament ses œuvres en criant leur joie. Ceux qui partent en mer sur des navires et exercent leur métier sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres du Seigneur et ses miracles en haute mer. À sa parole se leva un vent de tempête qui soulevait les vagues. Ils montent aux cieux, ils descendent aux abîmes, ils sont malades à rendre l'âme. Ils roulent et tanguent comme les ivrognes, et toute leur adresse est engloutie. Ils crièrent au Seigneur dans leur détresse, et il les a tirés de leurs angoisses. Il a réduit la tempête au silence, et les vagues se sont tues. Ils se sont réjouis de ce retour au calme, et Dieu les a guidés au port désiré. Qu'ils célèbrent le Seigneur pour sa fidélité et pour ses miracles en faveur des humains. Qu'ils exaltent dans l'assemblée du peuple, et le louent à la séance des anciens. Il peut changer les fleuves en désert, les sources en pays de la soif, une terre fertile en saline, à cause de la méchanceté de ses habitants. Il peut changer le désert en nappe d'eau et la steppe en source. Il y fait habiter les affamés, qui fondent une ville habitable. Ils ensemencent les champs, plantent des vignes et en récoltent les fruits. Il les bénit et ils se multiplient. Ils ne laissent pas leur cheptel s'amoindrir, puis ils diminuent et déclinent, sous les privations, le malheur et la douleur. Il répand le mépris sur les nobles, il les égare dans un maquis sans chemin, mais il protège le pauvre de la misère et rend les familles aussi nombreuses que les troupeaux. À cette vue, les hommes droits se réjouissent, et toute injustice ferme la bouche. Qui veut être sage, qu'il prenne garde à tout cela, et que l'on décerne les bontés du Seigneur. Voilà. Donc ce psaume-là, contrairement à beaucoup d'autres, au moins on voit que c'est un chant. Parce que vous avez entendu qu'il y avait des couplets et des refrains. Donc là, on est plus que pour d'autres psaumes dans la conception que nous avons du chant, c'est-à-dire couplet-refrain. Et la deuxième remarque que vous avez dû vous faire à propos de ce psaume, c'est que contrairement à beaucoup d'autres, il n'a pas de titre. Puisque bon, vous savez maintenant, puisque on en a étudié plusieurs, que beaucoup de psaumes ont une en-tête. Alors par exemple, de David quand il fuyait devant Absalom. Bon là, on sait c'est circonstancié, on sait dans quel contexte le psaume a été écrit, on sait par qui, enfin en tout cas à qui il est attribué, celui-là, on ne sait ni par qui il a été écrit, ni dans quelles circonstances, et c'est pas innocent, enfin à mes yeux, et c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, c'est que, et je vais essayer de le démontrer, j'espère que vous serez convaincus, ce psaume, il a une portée universelle, malgré les apparences. Malgré les apparences, parce qu'on a entendu de gens parler de gens qui étaient perdus dans le désert, bon, nous ça nous arrive pas si souvent que ça, qui étaient emprisonnés avec des fers, etc., qui étaient perdus en mer avec une tempête qui menaçait de les engloutir. Bon, tout ça c'est pas notre quotidien, et pourtant quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que ce qui est développé dans ce psaume, c'est la condition humaine dans ce qu'elle a d'universel, c'est-à-dire d'intemporel, en tout temps et en tout lieu. Je ne vais pas entrer dans un propos philosophique, mais je voudrais que tout le monde ici ait lu, par exemple, le concept d'angoisse de Kierkegaard, mais ça n'est manifestement pas le cas. Il faut tirer deux leçons de ce psaume. D'abord, et j'ai aimé la prière que j'ai entendue tout à l'heure, d'abord se souvenir. Se souvenir que, avant d'appartenir à Dieu, on était dans la condition humaine, dans ce qu'elle a de plus terrible, et c'est ce que ce psaume décrit. Et puis, prendre en compte le fait, c'est la deuxième leçon, prendre en compte le fait que nos contemporains, ceux qui nous entourent, malgré qu'ils se donnent bonne figure, comme on dit, malgré les apparences, c'est-à-dire ils sont bien propres, bien habillés, ils marchent dans la rue à peu près droit, ils sont aussi dans ce que la condition humaine a de, j'entends la condition humaine sans Dieu, a de pire, a de plus oppressant, a de plus avilissant, a de plus angoissant, justement. Et c'est pour ça que ce psaume parle de l'angoisse. Alors, on pourrait dire, moi j'ai, certains en tout cas pensent que j'ai un certain goût pour la provocation, on pourrait dire que l'auteur du psaume, il bat des records dans ce domaine, parce que ça commence par « célébrer le Seigneur car il est bon », c'est la première phrase, et puis quand on va plus loin, on voit qu'il change les fleuves en désert, les sources en pays de la soif, une terre fertile en saline, et qu'il humilie les nobles, et on pourrait dire, il est bon, qu'est-ce que ce serait s'il l'était pas, quoi. Et en fait, on prend conscience à la lecture de ce psaume que, c'est pour moi une grande leçon et un grand sujet de, j'espère que ça le sera pour vous, un grand sujet de joie, parce qu'il est question de la joie dans ce psaume, c'est que l'homme révolté, comme dire, c'est le titre d'un livre de Camus, l'homme révolté, Dieu ne le voit pas comme un ennemi, mais comme une victime à secourir. Quand on est révolté contre Dieu, on est contre lui, mais lui n'est pas contre nous. C'est ça, l'amour de Dieu. C'est ça qui fait que, par-dessus tout, il est bon. Il n'est pas neutre, il est bon. Nous, les humains, on a tendance à être neutres. C'est-à-dire que celui ou celle qui m'aime bien, naturellement, je vais bien l'aimer aussi. Et puis, celui qui me ou celle qui me monte sur le rebord des godasses, comme on dit, pareil, quoi, hein, réciproquement. Et Dieu n'est pas comme ça. Dieu nous voit, quand on est en révolte, comme des victimes. Et des victimes qu'il n'attend qu'un geste, qu'un cri, puisque là c'est un cri, de notre part, pour secourir. Le refrain c'est « Ils ont crié au Seigneur, et il les a délivrés ». Il y a jamais « Et il les a délivrés de quoi ?» De leur angoisse. Il est jamais dit il les a laissés mariner pendant 3 semaines après leur cri pour que ça leur fasse les pieds. Non. Tout de suite, il vient au secours. Dès qu'il entend le cri, il vient et il délivre. Alors, pour aller un peu plus dans le détail, ce qui est Enfin, ce qui m'intéresse, je disais, c'est la portée universelle du propos, c'est-à-dire que au-delà de ce qui pourrait paraître circonstanciel et j'allais dire assez éloigné de notre condition, eh bien, il y a, alors je vais employer un bien grand mot, pardon madame, il y a des profils psychologiques qui sont universels et qui sont décrits là de manière assez précise. L'usage, j'allais dire perverti de notre liberté, parce que en arrière-plan de tout ça, il y a la liberté des hommes. Il y a la liberté des hommes qui fait que ils ont le choix de, effectivement, on le dit au verset 4, de s'égarer. Ceux qui s'étaient égarés, ils ont le choix de la révolte, ceux qui s'étaient révoltés, c'est le verset 11, et ils ont le choix de l'avilissement, ceux qui s'étaient avilis, au verset 17. Et effectivement, ça génère une angoisse, mais une angoisse qui n'est que la conséquence d'une situation. Donc, la première des conséquences, c'est l'histoire du désert. Alors, débarrassons-nous de nos clichés sur le désert, et moi le premier, l'idée que j'ai du désert, c'est vacances au Maroc ou en Tunisie, avec les 4x4 climatisés qui vous amènent jusqu'à la tente où on vous sert de l'exotisme avec le couscous et la danse du ventre. Le désert vu comme ça, c'est très sympa. Dans la Bible, c'est pas ça le désert. Pas oublier que le désert, c'est l'endroit où Jésus va être emmené pour affronter le diable. Le désert, dans la culture de l'époque, ça fait peur. Ça fait peur parce que, effectivement, il faut prendre d'infinies précautions, c'est-à-dire il faut évidemment pas y aller seul, il faut y aller, alors c'est des caravanes qui traversent le désert, il faut y aller avec des provisions, il faut y aller avec de l'eau, et il faut surtout pas se perdre. Si on se perd, on est mort. Si vous retrouvez pas votre route, alors il y a du vent, le vent efface les traces des chameaux qui vous ont précédé, et tout d'un coup, plus rien. Et tout d'un coup, comme on est seul, on ne sait qu'il n'y a pas, il y a rien qui puisse nous aider à nous repérer. On ne sait plus ni où on est, et du coup, ni où on va. Quand la Bible dit cette phrase que tout le monde connaît. Ta parole, c'est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Ça veut dire, grâce à toi, je sais où je suis à mes pieds et je sais où je vais sur le chemin. Mais le désert, c'est l'endroit mortel par excellence et c'est l'endroit où symboliquement on situe le mal. Vous avez tous entendu parler, puisque c'est même passé dans le langage courant en français, l'expression bouc émissaire. Vous savez que, bibliquement, bouc émissaire, alors, le bouc émissaire, c'est un détournement du sens du texte, puisqu'il y a deux boucs. Et il y en a un qui est envoyé dans le désert, pour le démon. Parce que c'est le siège du mal, le désert. C'est l'endroit hostile par excellence, c'est le siège de l'hostilité. Et donc, quand on se perd dans le désert, on trouve plus, alors là on parle de ville habitée, et on dit « affamés, assoiffés, la vie les abandonnait ». Et ça, quand je dis que c'est universel, alors aucun de nous, je le souhaite en tout cas, n'a eu l'occasion de se perdre dans le désert, mais en revanche, la perte des repères, alors c'est peut-être lié à ma profession, mais moi je vis ça tous les jours. Je vais mettre un slogan en face de chaque rubrique. Là, le slogan, c'est « je suis paumé ». Des gens paumés, il y en a plein les rues. Il y en a plein les rues, des gens paumés. Ils l'avouent généralement pas facilement, mais quand ils sont en situation de le confesser, ils vous disent « je sais plus où j'en suis ». Et il y en a, mais des quantités. Donc, dans la ligne de ce que je disais tout à l'heure, il y a deux choses qu'il faut pas oublier, c'est que, premièrement, nous, sans Dieu, on est paumés, on est sans repères. On ne sait pas où on est et on ne sait pas où on va. Ah oui, mais si, moi je suis plus malin que les autres, pas besoin de Dieu. Moi je sais très bien me diriger. Ouais, dans le mur. C'est Dieu qui fait que on est Et j'ai entendu aussi des propos opportuns sur ce qu'est l'Église. L'Église, c'est la ville habitée, spirituellement. C'est pour ça qu'on est constitué en Église. Et c'est pour ça que c'est... Je suis tout sauf un imprécateur, mais moi j'ai un peu de mal avec les gens qui disent « Moi je vis ma foi dans mon coin, j'ai pas besoin de l'Église. Je m'en sors très bien avec ma Bible et ma conscience et ma prière dans ma chambre. » Ouais, c'est pas comme ça, pardon d'être prétentieux, c'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Dieu dit que l'endroit où on n'a pas faim et où on n'a pas soif, c'est une ville habitée. C'est-à-dire un endroit où il y a d'autres gens. Et où on n'est pas isolé. La solitude, l'isolement, c'est pas la condition humaine telle que Dieu la veut, c'est la condition humaine telle que la rébellion la provoque. Oui, moi pour avoir passé le week-end dernier à Paris, je peux vous dire que dans le métro, pourtant même si on est tassé comme des sardines, des gens seuls avec leur smartphone, mais seuls quand même, mais il y en a des millions. Alors, ne nous prenons pas pour ce que nous ne sommes pas, nous l'Église. On n'est pas le chemin. Il leur a montré le chemin direct. Le chemin direct, c'est pas nous. On sait qui c'est le chemin, puisqu'il l'a dit. Je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis un chemin, il a dit je suis le chemin. Ce qui veut dire clairement que personne d'autre ne l'est. Donc ça, c'est pas nous. C'est pas notre rôle. Ne nous prenons pas pour ce que nous ne sommes pas. Mais, en revanche, il leur a montré un chemin qui va directement à une ville habitée. La ville habitée, c'est nous. Et la ville habitée, c'est quoi? C'est l'endroit où, justement, ceux qui sont affamés et assoiffés, parce que le désert, quand on est paumé, les réserves s'épuisent. Donc, au bout du compte, Et vous savez que, statistiquement, surtout quand on est en plein cagnard, l'espérance de vie, quand on n'a plus à boire, c'est pas grand-chose. Hein. Et l'intérêt pour Dieu de montrer le chemin et d'être le chemin vers une ville habitée, c'est que dans cette ville habitée, évidemment, on va trouver à boire et à manger. Résultat des courses, qu'est-ce qui est notre responsabilité à nous, l'Église de Christ? C'est d'avoir à boire et à manger. Pour ceux que Dieu conduit par le chemin qui est son Fils, jusqu'à nous. Et Dieu ne conduira pas les paumés de la vie vers nous si on n'a pas à boire et à manger à leur donner. C'est clair. Parce que mourir en ville, parce qu'il n'y a ni à manger ni à boire, autant mourir dans le désert, hein. Aucun intérêt. Et Dieu fait ça pour les délivrer de leurs angoisses. Donc si c'est pour être aussi angoissé à l'arrivée qu'au départ, non merci. Mais souvenons-nous qu'un jour, il nous a fallu crier aussi. Et que dès que nous avons crié, Dieu nous a conduits par le chemin qu'est son Fils, vers un endroit où il y a du monde, où il y a d'autres, où il y a des repères, où on sait où on est et où on va, et où on a à manger et à boire, c'est-à-dire où tous nos besoins sont satisfaits. Et ce qui était dit dans la prière tout à l'heure, c'est que, effectivement, ça nous paraît normal, on entend ça aussi à la télé à cause des commémorations, on est une génération, sauf peut-être les plus anciens d'entre nous, mais on est une génération qui n'a pas connu la guerre, donc ça nous paraît tout à fait naturel, la paix. Et qu'est-ce qu'ils nous disent, les anciens? C'est quand même un bien précieux auquel il faut faire attention. Donc nous, enfin, quand je dis nous, je ne me prends pas comme référence, mais moi ça fait plusieurs décennies que Dieu me nourrit, me donne à manger et à boire, au sens spirituel, comme d'ailleurs au sens physique, mais... Et que j'ai des repères, et que je sais où je suis et où je vais, grâce à lui, uniquement grâce à lui. Mais il ne faut pas que j'oublie que sans lui, j'étais paumé, j'étais perdu, j'étais sans repère. Et ça, c'est universel. Nous nous adressons, à longueur de journée, à des gens qui sont sans repère, qui ne savent pas où ils sont et qui ne savent pas où ils vont. Alors, c'est à eux qu'il appartient de crier à Dieu. Et Dieu répond instantanément, mais ça doit être aussi notre prière pour eux. Et encore une fois, notre responsabilité à nous, c'est de faire en sorte, le jour où ils crient et où Dieu les sauve, puisque c'est le terme qui est employé, il faut qu'on ait ce jour-là individuellement et collectivement, à manger et à boire, à leur offrir. Deuxième catégorie, certains habitaient dans les ténèbres et l'ombre mortelle, prisonniers de la misère et des fers, car ils s'étaient révoltés. Alors, là, on a dit tout à l'heure que c'était l'égarement. Maintenant, on passe à la révolte. Ils avaient nargué le dessein du Très-Haut, ils dompta leur cœur par la souffrance, ils flanchèrent et nul ne les aidait, ils criaient au Seigneur. Là encore, vous me voyez venir assez facilement. Évidemment, tout le monde n'est pas en tôle, et heureusement. Sinon, visiteur de prison, t'aurais du boulot. Donc tout le monde n'est pas enfermé, tout le monde n'a pas des fers aux pieds, donc on pourrait dire, en plus, effectivement, la manière dont on... Enfin, la condition carcérale n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était à l'époque. Mais, en revanche, des gens qui vivent au sens figuré, mais pourtant bien réel dans leur quotidien, l'enfermement, il y en a autant que la première catégorie. J'ai dit, je poserai un slogan. Premier slogan, c'était « Je suis paumé ». Là, c'est « Je suis coincé ». Je suis coincé. Je ne me sens pas libre. Je ne me sens pas libre parce que je suis oppressé par toutes les contraintes de la vie. Je ne suis pas libre de vivre, tout simplement, de respirer. Je suis enfermé. Je vis ma vie comme un enfermement. Et ça aussi, je l'entends. Je l'entends à longueur de temps. Et là, je ne vais pas vous refaire, quand même, au passage, mais rapidement, c'est ce qu'on était. La forme, la condition carcérale spirituelle, c'était notre condition avant d'être libéré. Là encore, cette liberté-là, c'est à Dieu que nous la devons, et à personne d'autre, sûrement pas à nous. Nous sommes libres parce qu'il nous a libérés. Et quand il dit... On va échanger nos fardeaux, enfin, il ne le dit pas tout à fait comme ça, mais c'est ce que ça veut dire, on va échanger nos fardeaux, prenez le mien, je prends le vôtre, et vous allez voir comme c'est léger, faut pas oublier que le nôtre est lourd à ce niveau-là, et que c'est lui qui nous rend léger. Et si la vie est pour nous légère, alors, je vais y venir tout à l'heure, pas forcément tous les jours, et pas forcément pour tout le monde tout le temps, mais si fondamentalement la vie est supportable et agréablement supportable, c'est grâce à lui. Et nos contemporains, comme nous, avant de crier, nos contemporains sont entravés par des fers, certes invisibles, mais extrêmement contraignants. Je suis coincé. Je n'ai pas la liberté que je voudrais avoir. Dans cet enfermement-là, le texte souligne qu'il y a... Parce qu'on voudrait bien les aider avec nos moyens humains. Il y a des métiers qui sont faits pour... qui sont même conçus pour soulager ça. Et là, ce que dit le texte, c'est « Personne ne les aidait ». Alors, personne ne les aide, pas parce que... tout le monde est méchant, mais parce que c'est pas à la portée des êtres humains de libérer. Il n'y a que Dieu qui peut libérer, fondamentalement. Donc, aider nos contemporains à supporter le poids de la contrainte, à supporter parfois le poids de la vie aussi, mais je vais y venir après. C'est vrai que c'est possible, et c'est vrai que si on a l'occasion de le faire, il ne faut pas s'en priver. Mais ne soyons pas... Ne nous berçons pas d'illusions sur le fait que le seul libérateur, c'est Dieu. Et que, vous connaissez la phrase, hein, si vous serez réellement libre, si le Fils vous rend libre. Et ça, il faut aussi le dire à contrario, c'est-à-dire que pas de vraie liberté en dehors du Christ. Pas de vraie liberté, il y a toujours une forme d'enfermement pour celui qui n'appartient pas à Dieu, qui n'est pas disciple. Alors, il faut aussi le prendre en considération. Et puis, après le slogan « Je suis paumé » et le slogan « Je suis coincé », il y a malheureusement « Je suis dégoûté ». Je suis dégoûté de la vie. Certains, abrutis par leur dérèglement, avilis par leur péché, étaient dégoûtés, d'ailleurs c'est écrit, de toute nourriture, et touchés aux portes de la mort. Alors, ça aussi, c'est de tous les lieux et de tous les temps. C'est que, et malheureusement, c'est aussi l'actualité, puisque si vous avez pris la peine d'allumer un téléviseur, je ne sais plus si c'était hier soir ou ce matin, enfin bon, bref, mais malheureusement, de toute façon, c'est tous les jours. Donc même quand on ne nous le dit pas, des gens pour qui la vie est trop lourde à porter et qui décident que ça suffit et qui y mettent un terme, et puis... Alors, il y a tous ceux qui osent et tous ceux qui n'osent pas, mais qui sont tout autant dégoûtés de la vie. Ras-le-bol. Le ras-le-bol de la vie, moi, je suis pas différent de vous, hein, je suppose que ça vous arrive aussi. Moi, des gens qui me disent, j'ai une vie de, je ne dirai pas le mot, mais vous avez deviné, enfin, voilà. Moi, ça m'arrive tout le temps, quoi. Et des gens qui s'interrogent très sérieusement sur l'intérêt qu'il y a à continuer à vivre. Heureusement que le passage à l'acte, comme on dit, ne représente qu'une part infime de cette population-là. N'empêche que, à quoi bon, quoi. Si c'est pour vivre ça, autant en finir tout de suite. Ça traverse l'esprit à plus d'un de nos contemporains. Hein. Et c'est vrai que, une fois qu'on a saisi cette possibilité, comme dirait Jean dans son prologue, il leur a donné, enfin, ça c'est, pour moi c'est la phrase la plus extraordinaire de la Bible, moi ça m'émeut quand même, hein. Il leur a donné la possibilité de devenir enfants de Dieu. On lit ça comme si c'était d'une banalité affligeante, mais réfléchissons-y deux secondes, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné la possibilité de devenir des enfants de Dieu. Et ceux-là, ils ne sont pas nés de la chair, ni du sang, ni du désir d'un homme, pour une femme, mais de Dieu. Mais si on n'est pas ça, et ça, c'est ce pourquoi on est fabriqué, on a été créé pour être ça. Et si on ne l'est pas, bon, on peut à la rigueur exister, mais est-ce que c'est vraiment vivre? Si on est un peu lâche, on va effectivement aller jusqu'au bout de l'existence. Pardon d'être cruel, mais je suis très imprégné de Camus, moi. Camus qui commence un livre qui s'appelle « Le mythe de Sisyphe » en disant la seule question qui vaille, c'est celle du suicide. Est-ce que ça vaut le coup d'exister? Bien sûr que non, dit la Bible, mais ça vaut le coup de vivre. Vivre comme enfant de Dieu. Ce que nous sommes appelés à être et ce que nous avons été. Enfin, on a ça quelque part en nous, dit l'Ecclésiaste. On a cette pensée de la permanence. On a cette pensée que la mort, c'est une absurdité. Mais si c'est pour vivre une simple existence, avec un début, une fin, et pas mal d'emmerdements entre les deux, la question se pose sérieusement. N'oublions pas que c'est dans cette condition-là que nous étions. C'est ce que dit ce psaume, et c'est dans cette condition-là que sont la majorité de nos contemporains. Et tout ça, justement, Dieu n'y est pour rien, puisque on a vu que c'était la révolte, la rébellion, qui emporte avec elle ses conséquences. Et Dieu, encore une fois, n'attend qu'un cri pour venir au secours de celui ou de celle qu'il ne considère pas comme un ennemi, mais comme une victime. Et là, tout d'un coup, ça change de registre. Parce que là, on va attaquer le chapitre des marins. Vous avez entendu, donc pour mémoire, « Ceux qui partent en mer sur des navires et exercent leur métier sur des grandes eaux, ceux-là virent les œuvres du Seigneur et ses miracles en haute mer. À sa parole se leva un vent de tempête qui soulevait les vagues. Ils montaient aux cieux, descendaient aux abîmes. » Donc ça montait, ça descendait. « Ils sont malades à crever. » Ils sont malades à rendre l'âme, c'est pas écrit crever dans ma Bible. Hein. Ils sont malades à rendre l'âme, mais c'est ce que ça veut dire. Ils roulent et tangent comme l'ivrogne, et toute leur adresse est engloutie. Alors là, il y a deux nouveautés. Il y a deux nouveautés, c'est que on dit pas que ce qui leur arrive, c'est à cause de leur méchanceté, enfin, ou de leur révolte, ou de leur rébellion, ou de leur avilissement, ou de leur péché. Non, ceux-là, ils sont
Donc le premier scoop, c'est que ça peut nous tomber dessus, même si on n'est pas spécialement en rébellion contre Dieu, puisque là, c'est pas dit. Et le deuxième scoop, c'est que là, c'est Dieu qui provoque la tempête. Là, il est, pour le coup, responsable directement de ce qui leur arrive, puisque c'est lui qui fait lever le vent, qui fait les vagues, qui fait... Qu'est-ce qui lui prend ? On n'a pas dit au premier verset qu'il était bon. Si t'es un Dieu bon, et nos contemporains aussi se posent le problème, pas tant de l'existence de Dieu, mais vous connaissez la fameuse phrase, quand on voit le monde tel qu'il est, la seule excuse qu'on peut trouver à Dieu, c'est de ne pas exister. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la question fondamentale, c'est pas tant est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas, c'est est-ce qu'il nous veut du bien ou est-ce qu'il nous laisse nous faire la guerre et puis tous les malheurs qu'on peut énumérer sur la condition humaine. Est-ce qu'il laisse faire ou est-ce que encore pire, il les provoque ? Ça pose un vrai problème. Et là, le problème qui est posé, c'est, nous on était sur la mer, on faisait notre boulot, parce que c'est des pêcheurs, on dit que c'est des professionnels, on n'avait rien demandé, et lui, il se met à souffler sur le vent pour qu'on soit malade à crever, et qu'on soit obligé de crier. Alors c'est un peu sadique quand même, parce que c'est lui qui provoque ça, puis après, il dit, crier, et puis moi je vais apaiser la tempête. Oui, mais c'est toi qui l'as fait la tempête, donc... Ouais. Parce que... Et ça, c'est un autre aspect de sa pédagogie, c'est que c'est des professionnels, hein. On le dit deux fois dans le texte, c'est des professionnels de la mer, donc ils savent faire, hein. Ils n'ont pas besoin de Dieu, hein. Ils ont la technique, puis ça fait pour la plupart d'entre eux des années, voire des décennies qu'ils savent se débrouiller avec un bateau. Leur technique et leur professionnalisme est prêt apparaît à toute éventualité, sauf que non. Et là, ce qui fait que c'est Dieu qui provoque ce qu'on pourrait qualifier de mal, entre guillemets, c'est-à-dire une tempête où ils risquent d'y laisser leur peau, hein. C'est pas une plaisanterie, cette histoire. Mais là, il y a une dimension pédagogique. Et ça explique toute la problématique de « je suis chrétien et pourtant les emmerdements s'enfilent comme des perles ». D'abord parce que Dieu ne nous promet pas un long fleuve tranquille après la conversion. Jésus a dit beaucoup de choses à ses disciples, mais jamais vous allez vivre une vie pépère dans un pavillon de banlieue. Hein. Ça, alors, vous pouvez chercher dans la Bible, il a plutôt dit l'inverse. Vous allez être comme des brebis au milieu des loups, c'est pas exactement le même programme. Bien. Il y a des choses qu'on a besoin d'apprendre, même quand on a crié à lui, ou même quand on n'a rien fait de spécial contre lui, en rébellion ou en révolte. C'est que nos compétences ne nous suffisent pas pour affronter la vie. Et ça, on a besoin de l'apprendre, pas en théorie, mais en pratique. On a besoin des épreuves de la vie. On a besoin qu'il envoie, parce que là, c'est lui. Là, c'est pas le diable, hein, faut pas chercher, c'est lui, clairement. Il a besoin de, même son fils, on dit qu'il a appris l'obéissance par la souffrance, ce qui est assez surprenant quand on y réfléchit. Mais en tant qu'humain, on a tous besoin d'apprendre la dépendance absolue dans laquelle on est de lui par les difficultés. Et là, et puis un marin, c'est fier. Hein. Et moi, je ne suis pas marin, mais je me reconnais dans... Et chacun pourrait en faire autant, enfin, je pense. On a tous des compétences. Compétences professionnelles, compétences... On a tous des compétences. Et dans ce domaine-là, enfin, dans nos domaines de compétences, on est assez sûr de nous, par définition, puisqu'on sait faire. Et s'il y a bien une catégorie où c'est pas négociable, c'est les marins. Un marin expérimenté, il est assez fier de ce qu'il est et de sa compétence. Sauf que, et c'est pour ça que c'est l'exemple des marins qui est pris en compte, S'il y a bien un domaine, alors c'est vrai aussi pour la montagne, mais là, c'est il y a plus de mer que de montagne, là où le psaume a été écrit, c'est pour ça qu'on parle de la mer et pas de la montagne, mais c'est que s'il y a bien un domaine où il faut rester humble, c'est sur la mer. Même si vous avez des marins, malheureusement aussi, comme d'ailleurs en montagne, mais des marins parmi les plus expérimentés qui disparaissent en mer, il y en a malheureusement tout le temps. Parce que la mer est plus forte que nous. Et donc, la pédagogie de Dieu, en l'occurrence, c'est de dire, il faut imaginer comment ça se passe. C'est-à-dire que le vent se lève, donc ça commence à la houle, t'engage, machin, roulis. Dans un premier temps, tant que c'est gérable, ils comptent sur leur propre force et leurs propres compétences. Et nous aussi, on en fait autant. Tant que les problèmes qu'on affronte sont à notre portée, et puis c'est de pire en pire. Et puis, on dit des creux, alors c'est pas mesuré en mètres, mais quand on dit de manière imagée qu'ils montaient aux abîmes... Ils montaient aux cieux et ils descendaient aux abîmes, ça vous donne une idée du parcours du bateau. Donc il y a un moment où c'est plus gérable. Même en étant les meilleurs marins du monde, on va prendre le bouillon. Et là, on crie. Et on a tous vécu ça, ou on le vivra un jour. C'est qu'il y a un moment où Dieu nous montre, et c'est une pédagogie nécessaire. Il y a un moment où Dieu nous montre que faut arrêter de faire le malin en disant « ça, je sais faire ». Et même dans le domaine où on est un pro, il faut à un moment savoir dire à Dieu, je m'en sors plus. Là, je suis mort. Hein. Ça, toutes mes compétences, je suis au bout, et à partir de là, je ne sais plus faire. Donc, je vais crier. Et ça, alors effectivement, on pourrait considérer que c'est un peu bizarre pour Dieu d'avoir provoqué la tempête pour l'apaiser après, mais... une fois qu'ils arrivent au port, puisque on nous dit qu'ils sont arrivés au port indemnes, une fois qu'ils arrivent au port, c'est plus les mêmes. Dieu n'en a sacrifié aucun à sa pédagogie. On nous dit pas qu'il y en a trois qui sont tombés à la mer et qu'on n'a jamais retrouvé, c'est pas vrai. Non, Dieu leur a donné une leçon, mais quelle leçon ? Et l'humilité qu'ils arrivent en arrivant au port. C'est un beau cadeau que Dieu leur fait, parce qu'ils ne l'avaient pas en partant. Et ça, c'est aussi ce que Dieu réserve à ses enfants, pour le coup. Ceux qui sont disciples du Christ, ils ont droit à ça aussi. C'est-à-dire, je vais t'emmener au bout de tes compétences pour que tu t'aperçoives que si je ne suis pas là, tes compétences professionnelles, techniques ou ce que tu veux... ça ne suffira pas pour te sauver de toutes les situations. Alors, bon, je vais arrêter là, parce que ce que vous avez peut-être, parce que c'est a priori pas un psaume poilant, quand on voit tous les ennuis, et pourtant, ça ne vous aura pas échappé, en tout cas je l'espère, il est régulièrement question de la joie. Parce que la conséquence d'être tiré par Dieu des difficultés, parfois mortelles, c'est la joie que ça provoque. Je vous ai dit ça pour que votre joie soit parfaite. Personne ne vous enlèvera cette joie-là. Et la joie d'avoir été... alors, je reprends, c'est le résumé du spectacle, comme on dit. La joie d'avoir été sorti du désert où on allait mourir, pour aller vers une ville habitée, le fait d'avoir été nourri et désaltéré, le fait d'avoir été délivré de l'emprisonnement, alors pas au sens forcément physique, mais au sens psychologique, délivré de l'emprisonnement, et guéri et sauvé, et le fait de savoir que quand nos compétences s'arrêtent, c'est-à-dire quand on entre dans le domaine de notre insuffisance, Dieu est là, ça... c'est ce qu'on dit au verset 22, qu'ils offrent des sacrifices de louange et proclament ses œuvres en criant leur joie. Au verset 30,
Ils se sont réjouis de ce retour au calme et Dieu les a guidés au port désiré. Et au verset 42, à cette vue, les hommes droits se réjouissent et toute injustice ferme la bouche. C'est effectivement, et c'est ce qui m'intéresse dans ce psaume, je dis que c'est... il est temps que je m'arrête donc, ce qui m'intéresse dans ce psaume, c'est de voir à quel point contempler ce que Dieu a fait pour nous, ce qu'il est prêt à faire pour nos contemporains, au moindre de leurs cris, et ce qu'il nous rappelle de notre propre histoire et de notre propre vécu, c'est vraiment un sujet de joie. Voilà, je m'arrête.